Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes extrêmement nombreux à nous écouter en direct, mais également en podcast où, mois après mois, nous battons des records. Si vous voulez aller réécouter la première partie, nous avons parlé de l'Olympique de Marseille qui affronte ce soir Nantes. Vous pourrez vous précipiter sur le podcast. Toujours avec Marie Martineau, Cyril Linette, Simon Dutin, Jérôme Pinault, les élections américaines dans quelques instants et ces sportifs qui s'engagent. Faut-il espérer la même chose en France ? Ce sera le bras de fer des GG. Mais où va s'arrêter Hugo Humbert, le numéro 1 français, s'est qualifié pour sa première finale de Masters 1000 en carrière. Peut-il devenir la nouvelle star du tennis français ? Nous nous poserons cette question. Et puis 11h, mais qui voit réellement la Ligue 1 ? Le nombre d'abonnés, vous le savez, est faible. Les buts ne sont plus diffusés sur les réseaux sociaux. Le manque de visibilité va-t-il tuer notre championnat ? Et puis je ne résiste pas à l'envie de vous proposer ce jeu, chers auditeurs, à l'occasion de la sortie du film Venom The Last Dance dans les grandes gueules du sport. Nous vous offrons, oui, des places. Et des places, c'est toujours important. Mais nous vous offrons surtout des goodies du film avec chargeur de téléphone, housse d'ordinateur. Et j'ai découvert hier, à ma grande surprise, la gourde parapluie. Si ça vous intéresse... La gourde parapluie.
Sur du gros budget, là.
Là, on a tout donné, là. Là, on n'est plus à l'américaine, on est à l'armoricaine. Le 32-16, évidemment, si vous voulez gagner vos places. Venom, The Last Dance. Allez, on débute cette nouvelle heure avec ce texte de Philippe Meyer qui a écrit un jour... Le cochon dit à la poule, les œufs pour toi, c'est un engagement partiel. Le bacon, pour moi, c'est un engagement total.
RMC, le bras de fer GG.
So let's now welcome the candidates to the stage. Vice President Kamala Harris and President Donald Trump.
Vous qui voyagez à ses côtés, aucun serment, aucun engagement ne vous oblige à aller plus loin que vous ne le souhaitez.
My fellow Americans, if you want what's best for your family and this country... You're going to vote Donald J. Trump as the 47th president of the United States.
Les supporters qui n'ont pas voté pour lui, qu'il déteste sûrement.
He doesn't understand the power that he has for being the leader of this beautiful country.
On connaît le poids d'un penalty sur un bulletin de vote.
Kamala, that you've had enough, you're not going to take it anymore.
Allez, qui vote pour?
Oh, say, can you see?
J-2 avant les élections américaines et l'un des enjeux de cette sulfureuse bataille que se livrent Donald Trump et Kamala Harris, le soutien des stars, acteurs, chanteurs, vedettes en tout genre et évidemment les sportifs de haut niveau. Les deux candidats cherchent par tous les moyens à s'attirer leur faveur. Là, dans la dernière ligne droite, en fin de semaine, LeBron James a appelé à voter pour Kamala Harris. L'UFC, la très puissante organisation de MMA, roule carrément pour le candidat républicain. Les sportifs américains qui s'engagent. Faut-il espérer la même chose en France ? C'est notre débat ce matin dans les grandes gueules du sport. Dans le coin gauche, la team non, représentée par Simon Dutin et Jérôme Pinault. Dans le coin droit, la team oui, Marie Martineau et Cyril Linette. Pour l'instant, pour vous, chers auditeurs, il n'y a pas débat. Ou en tout cas, une large majorité, 79% non. Il ne faut pas espérer la même chose en France, 21% oui. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Arnaud Souk. Bonjour Arnaud.
Salut les amis.
Salut Arnaud.
Et oui, je le disais, les sportifs américains s'engagent avec des positions très tranchées. Il faut choisir son camp.
Oui, et à l'image des stars de la musique et du cinéma, on peut citer Eminem, Beyoncé ou Bruce Springsteen. Le sport est lui aussi un instrument de campagne dans cette élection présidentielle américaine. Tu l'as dit, en MMA, on se proclame pro-Trump. Mais l'ancien président des États-Unis est également soutenu par d'autres sportifs de renom, le golfeur John Daly, par exemple, qui est assez clair sur le circuit. Nous voulons tous que Papa Trump revienne. Position notamment partagée en football américain par Harrison Butker, le kicker des Kansas City Chiefs, vainqueur du Super en février et qui soutient ouvertement Trump, notamment pour ses positions anti-avortement. À l'inverse, la NBA se montre plutôt pro-Kamala Harris. Souvenons-nous en 2017 quand les Golden State Warriors de Stephen Curry avaient décidé de boycotter la traditionnelle réception à la Maison Blanche réservée aux champions en titre. 7 ans plus tard, le meneur aux 4 sacres NBA n'a pas hésité au moment d'apporter son soutien à la vice-présidente sortante. Elle essaye d'apporter son énergie à la campagne et j'espère qu'elle sera en mesure de gagner l'élection, a-t-il confié avant les JO cet été. Son entraîneur en club et en sélection, Steve Kerr, souhaitant quant à lui ouvertement une défaite à Donald Trump. son homologue Greg Popovich traite carrément Trump de malade. Il est pathétique. C'est un petit homme, on le sait tous. Vous ne l'engageriez même pas pour garder vos enfants, mais vous allez voter pour lui en tant que président, questionne ironiquement l'entraîneur des San Antonio Spurs aux potentiels électeurs de Trump. Enfin, citons en exemple de cette liste non exhaustive la très engagée Megan Rapinoe, double championne du monde et vice et championne olympique pardon de football, dont la sortie récente ne laisse pas de place au doute. Nous ne pouvons pas laisser vous savez qui gagner. Nous avons l'occasion de participer à quelque chose d'absolument incroyable et sans précédent, mettre une femme, mais une femme noire en plus, à la tête du pays. Si vous ne vous réjouissez pas de cela, je ne sais pas ce qui vous réjouit. Pardon. Voilà.
Merci beaucoup Arnaud Sou pour ces précisions et évidemment ces acteurs et ces sportifs américains qui s'engagent. Faut-il espérer la même chose en France ? C'est notre débat et c'est carrément non pour vous les auditeurs à 79%. Le camp du oui, Cyril Linette, Marie Martineau, c'est à vous de rattraper un petit peu votre retard. Marie, tu commences.
Oui, alors bon, c'est toujours difficile de comparer les États-Unis avec la France, et c'est vrai que là, peut-être que le vote de nos chers auditeurs reflète aussi un ras-le-bol en fait de cette campagne qui quand même prend beaucoup de place même dans nos vies à nous outre-Atlantique. Pour autant, je trouve que la question est pleine de toupet, parce que quand nos athlètes prennent la parole, c'est pas leur place. Lorsqu'ils se taisent, c'est parce qu'ils sont déconnectés. Je savais pas qu'il y avait besoin d'un permis de la citoyenneté. J'aimerais juste qu'on rappelle aux gens que la politique, c'est pas un gros mot. Se saisir de la vie de la cité, c'est pas mal. C'est pas parce que il y a certaines personnes qui accaparent le débat et qu'on les trouve populistes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que c'est ça la politique. Moi, j'aime la politique. Je trouve que c'est chouette. J'en ai toujours fait depuis toute petite. J'étais déléguée de classe et je trouvais ça cool de pouvoir porter la parole de mes copains, de pouvoir plus tard me saisir des sujets d'environnement aujourd'hui et de voir qu'on peut impacter. Et un athlète, il a pour lui cette chance incroyable d'avoir un petit peu d'aura, un petit peu ou beaucoup d'aura, et je trouve ça normal, respectable que certains athlètes aient envie de s'en servir et puis de faire vivre la vie de la cité, la démocratie, la République, la vie de la République. Enfin, voilà, j'aimerais juste qu'on ramène de l'intelligence dans tout ça. Mais bon, encore une fois, je comprends que les gens puissent en avoir un petit peu marre là en ce moment, et je comprends les 79%, mais je voulais amener le débat autre part.
Ok, bah tu l'as très bien défendu cette position.
Ouais, c'est fort,
super. Ouais. Ok, Simon Dutin, Jérôme Pinault, pas d'accord, Jérôme.
Non, mais moi je suis pas d'accord. Déjà, tu peux porter et avoir ton avis politique sans en faire part au monde entier. Enfin, si tu peux le garder pour toi aussi. Aller voter, c'est déjà le premier geste que tu dois faire plutôt que de le dire. Aujourd'hui, en plus, on parle des élections présidentielles. On a quand même compris quelque part. On comprend les camps. Aujourd'hui, moi, je te dis, en France, une élection présidentielle aussi forte qu'elle ne l'est aux États-Unis. Encore une fois, si on doit comparer, on compare jusqu'au bout. Ça reviendrait à dire qu'un sportif populaire en France, une star qu'on écouterait, faudrait la trouver, parce qu'on n'en écoute plus beaucoup, se positionne clairement. Imaginons un jour un sportif français très connu dire « Moi, je vote Marine Le Pen ». Ça passera pas, c'est carnage.
Bien sûr.
Marie dit pareil alors. C'est carnage. Déjà dans la rue.
Mais ça arrivera.
Ce sont des gens qui font des grands chiffres aux élections. Tu regardes, tu dis oui, mais là on est 50 autour d'une table, donc il y a forcément tout le monde se tait. On n'assume même pas ce que nous on fait en mode privé. Alors t'imagines de mettre les sportifs devant. La deuxième chose, moi, que je trouve logique ou illogique aujourd'hui en France, si ça devait être le cas, c'est comme je viens de le dire. Pour ça, il faut des stars. Pour ça, il faut des gens qui portent, qui sont au-dessus, que le monde, enfin les gens ont envie de suivre. Donne-moi aujourd'hui un sportif de haut niveau très populaire qui pourrait donner son avis, que tout le monde suit.
Non, mais on ne sait pas s'ils sont écoutés.
Mbappé, Thuram l'ont fait il n'y a pas très longtemps.
Et on ne sait pas s'ils sont écoutés.
Ils ont pris pendant l'Euro. Mbappé, on lui a dit retourne d'où tu es, occupe-toi du terrain.
Mais ça, c'est parce que tu as certains algorithmes qui t'ont amené ça comme truc sur les réseaux.
Mais Marie, tu as été sportive aussi. Tu sais très bien que si le mec, il est au sommet, il peut donner son avis. Si le mec, il est un peu. Aujourd'hui, Mbappé redit la même chose, il prend carton.
Non, mais c'est quoi ce délire? Parce que c'est Mbappé, il n'a pas le droit de prendre la parole, il n'a pas le droit d'avoir un avis, il n'a pas le droit de le donner.
Il a le droit d'avoir un avis, il peut éviter de dire faites comme moi.
Non, et puis surtout Kylian Mbappé, c'est un peu retranché derrière le climat anxiogène lié à la victoire du RN dans ses législatives anticipées pour
expliquer ses
mauvaises performances et le fait qu'il n'avait pas tout à fait la tête au football. Moi, je pense que parfois, il faut savoir arrêter.
D'autant que quand Mbappé parle, il parle au nom de l'équipe de France de football.
On est bien conscient que la puissance d'un message, elle est évidemment en fonction de la force, de la taille de l'émetteur. Donc, à ce titre-là, peut-être qu'à la marge, il y aurait quelques Françaises, Français qui se diraient ah tiens, Kylian Mbappé m'a dit qu'il fallait voter pour un tel ou un tel. Moi je pense que c'est pas le rôle des sportifs. On compare avec les États-Unis où les rapports entre le politique et le sport sont beaucoup plus intimes, sont beaucoup plus ancrés dans la culture que chez nous.
Oui.
Les présidents américains, ils portent la casquette de baseball, ils savent se pointer en survette. Nous quand on voit un président,
pardon, Jacques Chirac,
les joueurs de l'équipe de France.
Donc, oui, mais pardon, il s'est mis en scène avec le sport. Quand
il
même.
S'est mis, ben justement, et c'est grotesque. Et à chaque fois, ça fait des images dans les bêtisiers.
Il y a 20 ans.
Il y a quelque chose qui fonctionne pas chez nous. Et quand les politiques s'invitent dans les stades, de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Va tendre ton micro.
Laisse-moi terminer. Mais c'est long.
Va tendre ton micro. Moi, je t'ai écouté. long et ennuyeux. Va tendre ton micro à la sortie d'un terrain d'entraînement et tu demandes aux joueurs de foot, mais comme à énormément de gens, il y a beaucoup plus de nuances politiques dans notre paysage politique.
Je suis d'accord.
Aux États-Unis, c'est rouge ou c'est bleu, c'est le
groupe. On n'en est pas très loin.
Ou la progressiste qui pourrait devenir.
On y va droit aussi.
Va demander aux joueurs de foot quelle est la différence entre les sociaux-démocrates et les démocrates chrétiens. Demander aux joueurs de foot quelle est la différence entre le programme des Républicains et le programme de Renaissance.
Non, mais on a compris. Non, mais là, tu manques de nuances toi-même et c'est dommage.
Ça ne les intéresse pas. Ils ne vivent pour la plupart pas en France.
C'est vrai.
Tu me parles de l'élection présidentielle. Pourquoi on ne les entend pas sur l'augmentation?
Je ne te parle pas d'élection présidentielle, je te parle de démocratie, je te parle de prendre la parole quand tu es un athlète.
Pourquoi on ne les entend pas sur la fin de vie? Pourquoi on ne les entend pas sur l'augmentation du SMIC? Pourquoi on ne les entend pas sur la réforme des retraites? Parce que ça ne les intéresse
c'est
pas.
Faux.
Que les
c'est
sportifs
faux.
Ne font
c'est parce
ne prennent
qu'ils n'ont pas la place pour l'instant. Parce que s'ils le font, on va les taxer de prendre justement la parole, alors que ce n'est pas exactement ce que tu fais, alors que ce ne serait pas leur lieu pour le faire. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre la parole sur l'environnement, sur l'engagement climatique. Est-ce que ça, c'est de la politique? C'est pas de la politique
pour toi. Que de la com qui va leur servir. Ils ne disent jamais quoi que ce soit sur des sujets.
C'est faux,
mais bien sûr que si.
Ils sont hyper nombreux à être vraiment touchés par le sujet et à s'exprimer à ce titre-là.
Ils ne les intéressent pas sur des sujets glissants qu'ils ne maîtrisent pour la plupart pas très bien, ou pas suffisamment.
C'est faux, c'est archi faux.
Le cas échéant, nuire à leur carrière ou à
le fait de se positionner pour une cause est pour moi totalement différente de se positionner pour quelqu'un là pour le
mais
coup
mais la politique ce sont des idées, ce sont pas forcément là, des
oui mais
personnes.
En France on a l'habitude de les entendre contre, par exemple contre le RN ça s'est passé cet été, et jamais pour. Il y a jamais un sportif français qui a dit j'appelle à voter
mais
pour lui.
Et en plus quelle personnalité politique te donne envie toi aujourd'hui?
Mais ça c'est pas le sujet, c'est un autre débat.
De prendre,
tu veux parler d'Anne Hidalgo, c'est un autre débat.
Non, mais pas du tout. Mais c'est la même chose que quel sportif aujourd'hui? On n'a pas de personnalité sportive qui emmènerait avec lui toute une opinion, avec quelqu'un.
Non mais en tout cas,
avec qui, Cyril, dis-moi.
Mais c'est pas la question, celui que ça intéresse. Ah, la question
est-ce que nous on attend la même chose chez nous?
Ça ne me poserait pas de problème que des sportifs sortent un petit peu du rôle dans lequel on les enferme. On dit effectivement il y a une condescendance ou il y a une vraie condescendance par rapport aux sportifs en France. On dit les politiques se servent du sport allègrement pour faire leur com. Pourquoi est-ce que les sportifs ne se serviraient pas de la politique justement pour exister, pour montrer une image, pour embarquer des communautés? Il faut pas forcer. C'est peut-être trop risqué. Je dis pas que c'est pas risqué. On l'a bien vu d'ailleurs. J'avais dit il y a pas très longtemps dans l'émission il y a quelques semaines que si les audiences de l'équipe de France de foot était pas très bonne ces temps-ci, c'est peut-être aussi la conséquence du fait d'avoir assez massivement dénoncé le vote pour le Rassemblement National et s'être mis à dos une partie de la population. Mais est-ce qu'ils ont eu tort de le faire pour autant à titre individuel? Pas forcément. Je veux dire, ce sont des individus, s'ils ont envie de s'engager, alors c'est mieux de s'engager pour que contre, mais s'ils ont envie de s'engager et de sortir du rôle dans lequel... Enfin, les acteurs et les chanteurs le font bien. Je dis pas qu'il y a un effet, d'ailleurs on ne sait pas si ça a un effet sur l'électorat, mais je pense que ça peut permettre aux sportifs de construire des personnalités, y compris pour leur futur, pour la suite de leur vie, quand ils seront plus sur un vélo...
Et de porter des vrais sujets,
y compris des sujets
Julien Pierre, ancien rugbyman, qui a créé Play for Planet, qui est une association qui commence à prendre une ampleur démesurée. Enfin non, tant mieux, une superbe ampleur. Je veux dire, c'est de la politique. C'est de la politique, c'est pas...
C'est quand même pas la même chose que de s'engager pour un parti et de s'exprimer complètement vers un parti.
C'est là où il y a des nuances à faire entre le système américain et notre système à nous. Mais
tu l'imagines pas comme ça, c'est impossible sur une élection présidentielle. Alors tu parlais de RN versus un autre parti ici en France. Est-ce que ce serait possible de voir le LeBron James français, allons-y sur Kylian Mbappé, qui arrive et qui dit, écoutez, moi je vote pour Macron et pour ce genre de raison. Est-ce que ça, tu l'imagines dans ta tête ou c'est impossible ?
Alors, impossible n'est pas français. Bien sûr que c'est possible et je pense même que ça arrivera parce que c'est de la fiction. Mais enfin, pour nous, ça paraît encore de la fiction. Mais on voit très bien comment notre monde évolue ouais. très vite, est en clivage permanent. Et donc, je vois pas pourquoi les élections présidentielles seraient en dehors de ce monde-là.
Ouais. Alors, autre question. Imaginez un entraîneur de foot. Alors, on sait que, et il l'avait dit notamment Christophe Galtier, qui avait dit qu'il avait des accointances avec Emmanuel Macron, notamment lors de la finale de la Coupe de France. Imaginez un entraîneur de foot français qui arrive devant les médias et qui dit ça, Greg Popovich.
Qu'est-ce qu'il dit ou fait pour convaincre de voter pour lui ? C'est un malade, il est pathétique, c'est un petit homme et on le sait tous. Vous ne l'engageriez jamais pour garder vos gosses. Vous ne l'engageriez jamais dans votre entreprise si vous en avez une. Vous voulez vraiment quelqu'un comme lui dans votre entreprise ? Jamais. Mais vous allez voter pour lui en tant que président.
Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est d'une violence inouïe.
Oui, mais ça montre quoi ? Ça montre l'absolue liberté de Greg Popovich par rapport à la vie politique américaine et par rapport à Donald Trump. C'est-à-dire qu'il n'en a rien à faire, il dit ce qu'il pense. Est-ce qu'on peut, ici, autour de cette table, avec tout ce qu'on a dit, les paramètres sont tout à fait justes, mais est-ce qu'on peut, alors qu'on est plutôt là pour défendre la cause du sport, est-ce qu'on peut ne pas imaginer que les sportifs français se sentent suffisamment puissants pour parler aussi franchement des hommes politiques, honnêtement, vu comment ils sont utilisés en sens inverse, moi, ça me choquerait pas. Si un jour ça arrive, ça ne me choquera pas. Ça veut dire que, effectivement, ils n'ont pas de difficulté à dire ce qu'ils pensent, y compris sur ces sujets-là. Pourquoi pas ?
Moi, j'en reviens à un des arguments que j'ai défendu. Il y a un problème culturel, une différence culturelle dans la façon dont on aborde, mais pas seulement la politique, mais également l'argent aux États-Unis, qui est prépondérant. C'est direct, combien tu gagnes, quel est ton contrat, ta reconnaissance sociale, même auprès des classes populaires, elle découle immédiatement de la valeur du contrat que tu as signé avec ton club. Si en Ligue 1, le champion chaque saison était reçu comme c'est de coutume à l'Élysée par le président de la République, je pourrais discuter, mais aux États-Unis, tu vas à la Maison Blanche et il y a des façons de marquer justement un engagement. Les Golden State Warriors, ils avaient refusé la visite traditionnelle à la Maison Blanche parce que c'est Donald Trump.
Mais regarde,
c'est déjà une façon de s'engager, mais encore une fois, parce que tu as le choix entre le rouge et le bleu.
S'il y avait une culture, il y a aucune comparaison. Les cultures sont différentes, mais est-ce qu'on doit souhaiter que nos sportifs restent engoncés dans la position dans laquelle ils sont aujourd'hui ? Moi, je ne crois pas.
Et pardon, s'il y avait eu le RN au pouvoir avec un premier ministre RN comme ça a pu être imaginé début juillet, je suis pas sûr que les athlètes olympiques, allaient s'afficher et ils auraient peut-être fait un acte politique, s'afficher avec un Jordan Bardella et avec leur médaille. Mais ça aurait été possible comme Donald Trump à la Maison Blanche.
Le RN ne dérange pas, aurait osé y aller.
La question, c'est ça. La question, c'est est-ce qu'on peut ici imaginer un sportif populaire ou très connu, si un jour on a la parole de dire je vote RN. Moi, j'y crois pas, franchement, j'y crois pas.
Ok, excellent débat en tout cas avec vous, les copains. J-2 avant ces élections américaines, et forcément, vous allez suivre ça sur RMC et sur BFM TV. Alors, il faut toujours un gagnant, comme dans une élection. Alors, oui, nous sommes partis à 79%. Non, il ne faut pas espérer la même chose en France. Sachez tout de même que vous avez bien tenu vos arguments, Cyril et Marie. Non, pas du tout. Tu me connais. Et pour une fois, non, vous êtes à 22%. Voilà, vous avez pris un petit pourcentage.
Ah bah voilà.
22,78.
Hey,
et on termine cette consultation. C'est pas énorme, mais bon. Pendant 10 minutes, c'est déjà bien. On le prend. Ok, les copains. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour vous parler de toute autre chose. D'Hugo Humbert en finale à Bercy. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Toujours avec Marie Martineau, Cyril Linette, Simon Dutin, Jérôme Pinault. Dans 10 minutes, les GG contre-attaque. 4 propositions de débat. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, Marie voulait gagner. Marie tenait un excellent sujet sur sportif, engagement écologique. 14%. Bravo Marie, tu ne vas pas gagner. Vinicius et le ballon d'or, la polémique, 39% pour l'instant. Simon Dutin est très bien parti pour en parler dans cette émission. Évidemment, vous pouvez encore aller voter. Il reste une dizaine de minutes, mais ça a été l'une des polémiques de la semaine. Mais tout de suite, c'était hier et c'était bon. C'était sur RMC avec Eric Salio.
Hugo qui finit ce match. C'est fini ! C'est fini, Hugo Humbert est en finale de Bercy et un grand respect pour Karen Khachanov qui a joué le dernier point alors qu'il pouvait plus, absolument plus bouger. Victoire donc de Hugo Humbert en 3 manches, 6-7, 6-4, 6-3. Hugo Humbert, 5e français en finale ici à Bercy. Après donc Grosjean, après Forger, après Tsonga et Gaël Monfils. Chapeau Hugo, chapeau Hugo.
Et nous allons reparler dans un second temps de cette polémique avec cette fin de match entre Khatchanov et Hugo Humbert. Mais Hugo Humbert dans la lumière, dans un premier temps, le numéro 1 français s'est qualifié, vous l'avez entendu, pour sa première finale en Masters 1000 chez lui à Bercy. Il défiera cet après-midi le futur numéro 2 mondial, Alexander Zverev. Eric Salio, notre spécialiste, est avec nous évidemment. Bonjour Eric.
Bonjour à tutti.
Pourquoi
il est parti?
Pourquoi tu parles italien ce matin?
Non, so,
il n'y a aucun italien dans le tableau là.
Tu te perturbes en France en finale, ça. Ça bouscule tout.
Oui, c'est pas arrivé souvent dans ta carrière. Ouais, mais où va-t-il s'arrêter justement?
Écoute, on va reparler de cette demi parce qu'elle a basculé au bout de 2h30. Le Russe touché à la cuisse a fini sur une jambe. Hein. Hugo Humbert l'a emmené en fait à son point de rupture physique et c'est ainsi qu'il l'a ressenti devant les micros.
Ouais, on s'en est tiré une bonne pendant quasiment 3h. Il y avait beaucoup d'intensité. Il s'est passé plein de choses, il y avait 15 000 personnes qui étaient là, donc ouais, moi aussi j'étais dans le rouge au début du troisième, et puis quand j'ai vu qu'il commençait à être un peu plus dans le dur physiquement que moi, qu'il commençait à cramper, ça m'a donné de la force, et j'ai continué, j'ai appuyé, et puis voilà, au final je m'en suis sorti.
Le médecin est à un match de réaliser un rêve de gosse, lui qui se trouvait dans les tribunes du POPB, oui, en 2007, c'était le POPB, je crois, pour la finale Nalbandian-Nadal. Il rêvait de fouler ce court, et ce dimanche, donc, il touche du doigt un kiff monumental. Hugo Humbert possède des ressources mentales assez extraordinaires, et on comprend mieux le personnage quand on écoute sa petite amie, la joueuse Tessa, Andrea Jaffitrimo.
Il a pas peur d'être lui-même, tout simplement. Bah, il a cette folie qu'il a. Je sais pas, je vous avais vu sur les vidéos et tout, comment il se parle entre les changements de côté. Bah, en fait, Hugo, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de fou, en fait. Il est pas tout seul dans sa tête. Et il a pas peur de l'assumer. Donc, c'est ça qui fait que sa force simple et humble. Et c'est ça qui fait sa beauté.
Cette finale face à Alexander Zverev, c'est la revanche d'un deuxième tour l'an dernier sur ce même court qui avait tourné en faveur de l'Allemand après un combat de 3h29. Avec le soutien de 15 000 personnes, Hugo Humbert croit à l'exploit. Il a raison. Souvenons-nous que les trois bleus sacrés à Bercy, Guy Forget, Sébastien Grosjean et Joe Wilfried Tsonga, n'étaient pas favoris face à Pete Sampras, Yevgeny Kafelnikov et David Nalbandian.
Et c'est à 15h aujourd'hui, à suivre évidemment sur RMC avec Eric Salio aux commentaires. Et c'est vrai que depuis la fin des Mousquetaires, le tennis français, on en parle souvent dans cette émission, se cherche une tête de gondole. Voici notre question. Hugo Humbert peut-il être la nouvelle star du tennis français? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui, il peut. Ouais.
Jérôme Pinault.
Non.
Marie Martineau.
Il peut.
Je sens que c'est timide tout ça. Cyril Linette.
Bah, il y a de la place.
Il y a de la place. Ok. Alors, je vais aller voir tout de suite Simon Dutin parce qu'hier on a
parce
fait ce débat
quoi,
sur
oui.
Est-ce qu'il a changé de dimension et toi, tu avais farouchement défendu le nom.
J'avais rappelé qu'il suffisait pas de battre l'un des meilleurs joueurs du monde, même dans un Masters 1000, pour changer de dimension, que ça ne se joue pas seulement au résultat, mais sur le même modèle qui avait appuyé ma brillante démonstration d'hier. Je vais vous rappeler que les précédents joueurs français qui ont atteint la finale du Masters 1000 à Bercy, c'est Forger, Tsonga, Pioline, Gasquet, Monfils, Grosjean et Gilles Simon.
Ouais, ça sort, hein.
Est-ce que c'est pas tous des stars, ce qu'on a pu considérer comme des stars du tennis français? Donc voilà, à partir de là, il va falloir qu'il capitalise là-dessus. On a rappelé que c'est un mec qui a l'habitude de la mettre au fond en finale. Il est à 6 sur 7. Jusqu'ici, il était à 6 sur 6 avant de perdre contre Arthur Fils à Tokyo. Et on a rappelé également, parce que c'est pas comme si on s'étouffait avec les finales de Masters 1000 d'ailleurs qu'à Bercy. Hein. La dernière fois, Eric l'a rappelé, c'était en 2016 pour mon fils à Monte-Carlo. La dernière fois à Bercy, c'était en 2011. Donc, t'es obligé de regarder autour de toi. Cyril rappelle que c'est pareil, hein, le paysage du tennis français de très haut niveau.
Non, mais est-ce que ça suffit, ça, justement? Est-ce
non.
que ça suffit?
Et ce qu'on disait hier, et qui tempérait un petit peu le fait que je disais qu'il n'avait pas encore tout à fait changé de dimension.
Tu veux qu'on diffuse le débat d'hier?
Non, mais écoute, j'invite des gens à aller podcaster l'émission.
Très bien.
Parce que voilà, mais je veux pas être désagréable. Marie était là, tu vois, ce serait un petit peu. Je leur ai marché dessus, quoi.
J'étais dans ta team, j'ai complété tous tes
arguments. Ce que je veux dire, c'est que au-delà des résultats, pour devenir une star, il faut créer un narratif et des aspérités au niveau du caractère. Et je pense que ce qu'on a observé toute la semaine, cette façon de se motiver, de parler, justement, Et puis tout ce qui intéresse les médias, les gros plans sur, alors on va dire que c'est pour montrer son coach Chardy, c'est aussi pour montrer sa compagne dans les tribunes. On est en train de voilà de créer une histoire autour de ce mec-là, et on va en parler tout à l'heure, la petite polémique, le petit côté bad boy, machin, ça va pas nuire au fait que on va pouvoir s'identifier et pousser derrière notre champion français.
Jérôme Pinot, pourquoi? Alors,
non, parce que déjà, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne connaissais pas ce garçon, je le découvre. Donc, je suis pas un grand fan de tennis, mais je découvre qui est ce garçon, de sa façon d'être, l'homme et le joueur. Le joueur, je connaissais deux noms, je savais que c'était un très bon joueur, parce que pour moi, pour être une star, même si c'est en France et on sait que le niveau, en ce moment, le tennis se cherche une star. On a connu ça dans le vélo aussi, on cherchait le succès, on le cherche toujours d'ailleurs. Une star, c'est beaucoup plus qu'un bon joueur. C'est quelqu'un qui a du charisme. Moi, je connais beaucoup plus Arthur Fils, qui a peut-être le même palmarès, je sais pas, mais en tout cas, moi, ce mec-là me parle. Je le connais, je sais qui c'est. Il a du charisme, il dégage des choses. Moi, pour moi, une star, c'est aussi ça. C'est pas que un palmarès. Et alors, effectivement, aujourd'hui, on est dans un tennis français qui se cherche un représentant, un leader. Je parlerai plus d'un numéro un, d'un leader qu'une star. Non, moi, je le connaissais pas. J'aime le sport quand même. Une star, j'imagine que s'il y avait une star du tennis en France, je la connaîtrais. Là, c'est pas le cas.
Non, mais t'es en train de nous dire que le trait de caractère qui consisterait à être humble, l'humilité, ne peut pas faire partie des traits de caractère d'une star.
C'est un peu fort.
Bah, si tu nous dis, il y a pas vraiment de trait de caractère, qui ressort, tu vois. Moi, j'ai noté que c'est un mec qui a l'air hyper humble. Tu peux avoir du charisme, mais être humble.
Bah, évidemment. On dit la même chose. Donc, elle est d'accord avec moi. C'est bon.
Pourquoi ne pourrait-il pas devenir la star du tennis français, finalement? Il nous a montré du super beau jeu, une capacité de résilience, parce qu'on rappelle qu'il avait déjà été 13e mondial, et puis il a connu un petit creux, hein, Eric, tu.
Léger, il est 18, hein.
Ouais, il a pas dégringolé un petit peu avant de revenir
à. Il a été 13e avant, après Covid, ça a été dur.
Voilà, je crois qu'il a une belle expérience et qu'il arrive en forme à un climax de sa carrière qui pourrait effectivement lui conférer ce statut de star française.
Le propulser dans autre chose, parce que c'est vrai qu'on compare souvent Arthur Fils qui est beaucoup plus jeune, mais c'est vrai que Arthur Fils a déjà déclaré que lui voulait gagner des grands chelems.
Il faut qu'il transforme l'essai sur un grand chelem.
Ça va se jouer entre l'un et l'autre, effectivement, en fonction de celui qui va gagner. Les JO ont amené pas mal de nouvelles stars ou confirmé pas mal de nouvelles stars dans le sport français, sauf en tennis, évidemment, où il s'est rien passé comme d'habitude. Donc là, c'est une opportunité. Il faut voir aussi de quel tournoi on parle. Gagner un Masters 1000, c'est différent de gagner un 250 ou un 500. C'est un euphémisme. Mais gagner Paris, enfin gagner, je sais pas comment ça s'appelle, Masters de Paris ou Bercy,
Rolex, Arena, tout ça.
C'est diffusé sur France 3. Enfin, ça a une visibilité médiatique beaucoup plus grande à part Roland Garros que d'aller gagner un Masters 1000 à Rome ou aux États-Unis. Donc c'est un peu plus visible. Ça passe sur le service public. Il y aura du monde cet après-midi devant la télé. Donc gagner un tournoi comme ça le propulserait de toute manière dans une dimension un peu différente, à confirmer derrière, sachant qu'effectivement il n'est pas vieux, mais il n'est pas tout jeune, il a déjà effectivement 5-6 ans derrière lui.
Il a une jeune génération qui arrive, hein.
Oui. Non mais
donc, star, faut que ça dure là pour le coup.
En tout cas, il se positionnerait, gagner ce tournoi
en leader visible, numéro 1.
Mais c'est
star.
Ce que je veux dire, c'est que c'est l'un des moments de tennis les plus visibles de l'année pour les Français.
Ce serait marquant.
Voilà, ce serait marquant. Un dimanche, là, il y aura du monde devant la télé cet après-midi.
Vous voulez de l'aspérité, évidemment. Vous voulez qu'il se passe quelque chose dans un match au-delà du sportif. Et hier, il s'est passé quelque chose. Karen Khachanov est mal en point physiquement. Il a des crampes. Il ne peut quasiment plus jouer. Et Hugo Humbert fait comme si de rien n'était, et lui joue à fond, et évidemment son adversaire Khachanov n'a pas du tout apprécié.
Je lui ai dit de rester un peu calme et de faire preuve de respect. Ce n'est pas une façon de se comporter. Je suis toujours fair play, je le féliciterai s'il se comporte comme une personne normale. Il peut faire ce qu'il veut avec le public, je n'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que vous m'avez vu célébrer hier? Grigor était épuisé, il n'était pas blessé, il me l'a dit à la fin. Mais est-ce que vous m'avez vu sauter et crier come on, allez, à chaque point? Tu sais que c'est bien? Tu peux célébrer après le match avec le public, aucun souci. Tu peux faire ce que tu veux. Les blessures font partie du jeu. mais faire ça quand l'autre est au sol. Ok, on verra la prochaine fois.
On verra la prochaine fois.
Déjà, il y a des rebelles dans ce sport.
Non, mais ça nous régale. Mais est-ce qu'il a manqué de fair play? C'est, vous vous positionnez
mais
comment, les GG?
Il a manqué de fair play. T'as une finale de Masters 1000. Ça, la première de sa carrière au bout, mais aucune pitié. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est vu perdre le match. Encore une fois, on touche jamais les finales à ces altitudes-là. Il faudrait s'excuser.
Il est ravi
que son adversaire soit rincé. Tant pis s'il a pas célébré contre Dimitrov. Non, mais de quoi de...
Non, mais au-delà de ça, je suis même pas sûr.
Mais c'est indigne. Il est dégoûté d'avoir perdu. Il est fatigué. Il y a de l'adrénaline. Il a dû être agacé par le public qui en rajoutait un petit peu. Bah, excuse-moi.
Non, mais je suis même pas sûr qu'il ait. Je te coupe.
Vas-y.
Je suis même pas sûr qu'il ait calculé que Khachanov était si dans le dur que ça. Hein. Il a continué à envoyer un peu des sacoches quand même, le russe en face. Et puis, il était tellement concentré et son coach n'arrêtait pas de lui dire encore. Et il était dans une espèce de tunnel de concentration très connu. Et je crois qu'il a vraiment pas essayé. Enfin, il n'y avait pas de calcul de quoi que ce soit. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti.
Okay. On n'est pas au Jardin des Plantes. On n'est pas à l'UNSS. Là, c'est un tournoi. Enfin, il est blessé, mais si c'est sa motivation à lui, il a envie de se motiver, il n'y a pas de souci. Le mec en face, il perd. Il a un peu la même réaction que Danso, quoi. C'est-à-dire qu'il perd, il gueule après l'arbitre, machin, mais bon, fait est, c'est que t'as perdu et que le mec en face, il est, comme tu dis, Simon, il est à la porte d'une grande finale pour lui. Il se motive, il est comme ça depuis le début du match. Il va pas prendre pitié de l'adversaire qui faiblit alors que depuis le début, il a le même comportement. C'est la vie, mon grand.
Bien entendu,
sinon, il y a des places
où il faut terminer le.
Je
connais pas Khachanov, donc je peux pas.
Je te rassure.
Le fait qu'il le dise est pas complètement anodin quand même. Sauf si Eric nous dit que c'est un spécialiste des conférences de presse dans lesquelles il pleure et tout.
Le fait qu'ils le disent
n'est pas complètement anodin. Il y a quand même dans le sport une attitude un minimum de d'attitude chevaleresque entre les uns et les autres. Les sportifs se reconnaissent ça entre eux tout le temps. Le fait que l'un des deux dise là il n'a pas joué la partition que j'attends de lui dans un moment comme ça, je trouve que c'est un petit indicateur qui s'entend à confirmer. Après, ça l'empêchera pas forcément d'accéder au statut de star.
Non, mais ça dit quelque chose. Ça en dit juste long sur le fait que pour Hugo Humbert, c'était le climax de sa carrière. À ce moment-là, donc il n'avait pas le droit à laisser venir
une star, faut pas que ce soit.
Mais je ne sais pas ce qu'il veut devenir, mais en tout cas, c'est une évidence qu'à ce moment-là, c'était son moment, alors que Khachanov, il en verra d'autres des
finales. Il a déjà gagné Bercy, ouais.
Voilà, tu vois, et donc il est dans une autre approche. Je ne le trouve pas très tolérant, en fait.
C'est quoi ton regard, toi, Eric ?
Non, mais je suis assez d'accord avec Marie. Je pense que Hugo est depuis cette semaine, c'est vrai, il n'arrête pas de se taper sur la poitrine, d'haranguer la foule. Il fallait qu'il reste dans cet état d'esprit, sinon. On a vu des matchs. Oui. Djokovic se blesse à l'Open d'Australie contre Fritz. Fritz se relâche un peu. Il s'est fait avoir. Il faut tuer la bête.
Il faut pas ouvrir la
bête. La bête est blessée. Il faut la tuer. Alors effectivement, il était surpris, la poignée de main. L'autre, il dit, c'est pas classe, que t'as fait. Et je pense même qu'il était touché parce qu'en conf de presse, en zone mixte, je l'ai pas reconnu comme d'habitude, Hugo. C'est un garçon qui est très sensible.
Il comprend pas d'ailleurs au filet.
Oui.
Ça revient à ce que disait Marie, c'est-à-dire qu'il lui-même peut-être ne s'est même pas aperçu de ce comportement exacerbé. Il est dans son truc, le mec.
Et puis je pense que les adversaires sont mal habitués ou pas habitués du tout à voir ces nouveaux Français qu'ils ont l'habitude. Bon,
on est chez nous, héros.
On ferme la porte.
Après, on est chez nous. Si c'est l'inverse, on cause scandale. Hein.
Pierre nous appelle au 32-16. Il veut réagir sur cette histoire. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour à tous.
Bon, manque de fair play,
moi, je retiens la dernière phrase, là. Si ça avait été le contraire, ça aurait été un scandale. Voilà. Vous avez tout dit. Vous avez un esprit chauvin qui est énorme.
C'est ce qui fait notre charme.
Mais attention.
C'est revendiqué.
J'ai regardé la fin du match, le troisième set. À la fin, c'était un manque de respect. Mais moi, ça m'a régalé, hein, parce que moi, je suis content quand les joueurs sont comme ça. Au moins, on s'ennuie pas. Parce que le tennis, on s'ennuie, c'est chiant. Là, au moins, il y a des gens qui prennent leurs responsabilités. Il a voulu l'écraser, c'est très bien. Mais à la fin, c'était un manque de respect total. Khachanov, il est par terre à deux points du match. Il arrive même plus à retourner. Et l'autre, il met un coup droit gagnant. L'autre, il ne peut pas marcher. Il lève les bras. C'est magnifique. Mais bravo pour votre esprit chauvin. C'est très bien.
Merci.
Excellent. Pierre, c'est drôle, on n'a pas vu.
Pardonne-moi, mais tu serais pas corse?
Oui, c'est ça. Oui.
Ouais, tu viens d'où?
d'Ajaccio. Je suis en footing, là, donc je suis intervenu, Julien, merci de m'avoir appelé.
Eh ben, merci de ta fidélité, et tu as raison de nous appeler quand il y a quelque chose qui te dérange ou que tu aimes. Tu
ah non, ça me dérange pas, mais ça m'a fait rire.
Il a raison, les deux derniers
mois, c'est que ce soit pas de Bastia, sinon je t'aurais envoyé un bisou du stade Malherbe de Caen, mais c'est pas grave.
Moi, je suis pour Ajaccio, on a perdu il y a quelques semaines aussi, donc...
Ok, voilà, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Mais merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous et d'avoir composé le
32-16. Merci à vous, et bonne continuation, au revoir.
À bientôt. Pour terminer, ça va lui servir, ça, Hugo Humbert ?
Quoi donc ?
Ce qui s'est passé
la vie de l'auditeur ? Attention, hein, on se projette sur la finale, c'est Zverev.
Pas forcément, hein, il ne rencontre pas le plus sympa du circuit en plus.
Ouais. Alors Zverev, lui, peut être perturbé par la foule. Je pense que la foule va avoir un rôle très important.
Il a failli le battre l'an dernier au deuxième tour en plus.
Absolument,
enfin, il a
3h30 de match. Zverev, j'allais employer une impression maladroite, c'est un garçon qui peut trembler au moment de conclure. Donc ça va être un élément important. Maintenant, j'ai peur qu'il n'y ait plus beaucoup d'essence dans le moteur.
Ouais, j'allais dire, Zverev, il a fini beaucoup plus tôt hier. Ouais. Il a fait que 2-7. En fin de semaine, ça commence à peser. Hein.
Et c'est à partir de 15h et c'est à suivre sur RMC avec Eric Salio au commentaire. Hugo Humbert.
Vamos.
À Sacha Zverev. Hugo, Eric Salio, l'italien, vous l'avez compris. Merci Eric. 10h46, on se retrouve dans quelques instants. Les GG contre-attaque, c'est fait. C'est acté. Il y a un vainqueur. Il s'appelle Simon Dutin et il va nous parler de Vinicius et de la polémique Le Real qui n'a pas voulu venir à la cérémonie du Ballon d'Or. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, toujours avec Jérôme Pinault, Simon Dutin, Cyril Linette, Marie Martineau. À partir de 11h, nous parlerons de la Ligue 1 et de ce manque de visibilité. Est-ce que ça va tuer notre championnat ? Les GG ne sont pas d'accord. On parlera aussi de Max Verstappen et il y aura le débat caché. Mais tout de suite, mes GG, c'est à vous de jouer.
RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin. Vous avez pu voter depuis une heure maintenant et vous avez voté en votre âme et conscience, évidemment. Cette histoire de Cathy Wood qui veut évidemment prendre le pas de l'écologie. 15% pour toi, Marie. Tu es dernière. Bravo, Marie.
Bah, j'ai les boules.
Je comprends. Le foot populaire à Paris, Paris FC versus Paris SG, 19%, une troisième place pour Cyril Linette, qui n'y croyait pas tellement.
Non, pas trop.
Il faut bien le dire. C'est un bon sujet, mais tu n'y croyais pas. Je suis très surpris par le vélo, le cyclisme, Evenepoel qui va ne pas disputer le Tour de France. 29% ont voté pour toi quand même.
Oui, parce que c'est pas un sport qui t'attire, ce sport-là. Mais alors, moi, je suis pas surpris.
Alors attends.
Ça intéresse les gens.
J'adore Evenepoel, j'ai tous ses disques. Mais alors là, je suis assez surpris. C'est vrai qu'il obtient 29%. Bravo à toi. Une belle deuxième place. 37%.
Face à Vinicius quand même.
37% pour Vinicius. Ballon d'or. Enfin, pas Ballon d'or, justement. C'était la polémique de la semaine. Simon, vas-y, explique ta problématique. On en débat maintenant.
Bah, je voulais revenir sur, donc, la polémique qu'a suscité l'attribution du Ballon d'or à l'Espagnol Rodri et non pas à Vinicius, l'attaquant brésilien du Real, qui a été, a priori, le grand favori de cette élection. Donc, le Real a annulé son déplacement et, bon, c'est pas vraiment drapé dans l'élégance qui caractérise d'ordinaire ses dirigeants. Vinicius, il a donc réagi uniquement via les réseaux sociaux, donc X, anciennement Twitter. Il a tweeté qu'il en ferait 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts, a-t-il conclu dans son message. Alors évidemment, toutes les rédactions du monde entier sont allées à la pêche aux infos, enfin aux explications derrière. Son entourage a déclaré à l'agence Reuters que voilà, c'est il voulait parler de son engagement contre le racisme dont il est régulièrement victime dans les stades en Espagne, et une version qui a été corroborée par un journaliste également brésilien qui se dénomme Caleas. La lutte contre le racisme, dit-il, lui a fait perdre le Ballon d'Or hier car il s'est fait beaucoup d'ennemis et a créé une très grande persécution. Voilà. Alors j'ai été un petit peu surpris par le choix des mots qui sont quand même très forts. On sait que Vinicius, bah, c'est le mal alpha de l'équipe à battre en Espagne. Donc il est évidemment au centre de tout ce qu'on peut faire dans les tribunes pour déstabiliser l'équipe adverse. Je pense que c'est soit un contre-feu, soit la déception qui a parlé. Moi personnellement, j'ai trouvé que l'excuse était un petit peu hors sujet. Voilà, et que je pense que c'est faire injure au processus de désignation du Ballon d'Or que d'imaginer que ça puisse être à ce titre-là qu'il n'ait pas été désigné. Je voulais poser la question aux grandes gueules, savoir ce qu'elles en pensent. Est-ce que, selon vous, ça peut expliquer que Rodri ait remporté un Ballon d'Or que je considère mérité, même si la désignation de Vinicius n'aurait pas été un scandale, ou est-ce que vous trouvez ça un petit peu surprenant, voire grotesque?
Ok, bah vous pouvez réagir, Cyril Lina.
Moi, je pense que la raison principale de la non-victoire de Vinicius est le fait que les voix en faveur du Real Madrid se sont réparties entre les deuxième, troisième et quatrième. Donc forcément, il aurait été le seul étendard, il aurait gagné. Il y avait aussi Bellingham et Carvajal à servir. La deuxième raison, c'est que quand même dans les critères d'attribution du Ballon d'Or, il y a un critère de fair play et que Vinicius, dans l'attitude, n'est pas complètement un rôle modèle, on peut le dire. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on gagne les matchs, hein, mais c'est pas le joueur le plus sympathique du circuit. Néanmoins, j'étais intéressé par ta question parce que il y a peut-être un truc quand même, marginalement, il y a peut-être un peu quelque chose. Alors pas forcément, et là je vais être un peu plus jusqu'au boutiste, mais pas forcément le fait qu'il soit victime ou coupable de sa lutte anti-racisme, mais pourquoi pas une forme de racisme elle-même. Parce qu'il y a combien de votants? 150, 180 votants, je ne sais pas. Il faudrait regarder le palmarès. Mais
ce sont les journalistes qui votent, il y en a un par pays, ils sont au nombre de 100.
Il faudrait regarder le palmarès un par un. Et je veux dire, le racisme, c'est malheureusement un fait de société que Vinicius subit tous les week-ends. Et je pense que France Foot fait très attention à son jury, et ainsi de suite. Mais voilà, je me suis dit, il y a peut-être une mini-trace de quelque chose là-dedans, sachant que pour moi, c'est pas l'argument majeur, mais je trouve que c'est un sujet. Donc je trouve pas que ce soit grotesque. Le comportement du Real Madrid est grotesque, et d'ailleurs ça sert le Ballon d'Or de manière incroyable, parce que plus personne ne peut dire que le Ballon d'Or n'est pas le trophée mondial le plus important, puisque le Real Madrid se met en scène de cette manière-là. Je trouve que pour le Ballon d'Or, c'est une publicité phénoménale.
Totalement d'accord.
Absolument extraordinaire.
D'ailleurs, avant de revenir à notre débat, toi qui étais directeur général de l'équipe, tu as côtoyé évidemment les grands de ce monde, les grands du foot, notamment les présidents du Real Madrid. Comment ça se passait justement quand le Real arrivait dans une cérémonie du Ballon d'Or?
Alors on allait à Madrid à l'époque, la cérémonie était très loin d'avoir le niveau dans lequel elle est aujourd'hui. Les équipes d'Amory, l'équipe et autres ont fait un travail extraordinaire par rapport à mon époque. On repartait vraiment de loin, donc on allait à Madrid donner le Ballon d'Or à Cristiano Ronaldo en général. Enfin, c'était Messi ou Ronaldo, mais à mon époque c'était Ronaldo, et on était reçu en grande pompe par Florentino Pérez. Quand il gagne, il est extrêmement urbain, sympathique, nous invite à déjeuner, on visite le musée du club et tout. C'est très important pour eux, évidemment, le Ballon d'Or. Moi, j'ai trouvé que leur réaction était la meilleure publicité possible pour ce trophée.
Ok, mais ça les dessert. Revenons sur cette histoire de racisme.
Le journaliste albanais a placé Vinicius en 8e position. Alors on en tire les conséquences qu'on a envie d'en tirer, ça n'a peut-être rien à voir, peut-être qu'il a jugé qu'il ne méritait pas d'être mieux que le 8e rang, voilà, c'est factuel.
C'est factuel, mais on ne va pas porter d'accusation non plus,
je dis juste un fait.
C'est déjà arrivé, pardonne-moi, mais alors, peut-être parce qu'il n'y a pas de grand joueur albanais qui méritait le Ballon d'Or, mais c'est déjà arrivé que ce soit grotesque avec les entraîneurs, les sélectionneurs, Didier Deschamps qui mettait 3 Français pour les 3 premières places du Ballon d'Or, ça pouvait être aussi grotesque.
Chacun joue sa partition, tu veux dire.
Oui, c'est ça, même si là, en l'occurrence, c'est pas le cas.
Non, mais je veux dire, ça en dit long quand même sur le fait que ce garçon-là subit des torrents de caca tous les week-ends en Espagne pour le simple fait qu'il est noir. Et peut-être que là, il a saisi l'opportunité d'en redire encore à quel point c'est compliqué pour lui de le vivre et à quel point ça le touche, tu vois, simplement, sans aller remettre en question le classement qui a été celui des journalistes sur ce Ballon d'Or.
Mais ce que dit Cyril est intéressant parce qu'il symbolise... Et c'est assez fou quand même, il symbolise le racisme. C'est-à-dire que ce qui s'est passé autour de Vinicius, on ne l'a jamais vu autour d'un autre joueur.
Mais parce qu'il est monstrueux sur le terrain, il est inattaquable et il se fait défoncer tous les week-ends. Enfin, je veux dire, dans un pays qui a priori pas trop pris le sujet à bras-le-corps et qui n'essaye pas trop de traiter le sujet racisme. Donc évidemment qu'il symbolise tout ça à lui tout seul. Oui.
Non, mais donc il y a cette histoire, donc forcément ça laisse planer le doute autour de cette deuxième place.
Il a une attitude agaçante, mais est-ce qu'on la soulignerait autant s'il n'était pas noir? Enfin, moi, sur le racisme, j'ai une position de principe qui est qu'à partir du moment où on n'est pas dans la peau de la personne, on ne peut pas juger à sa place, en fait. On ne peut pas savoir ce que lui vit réellement, puisqu'on n'est pas Vinicius. Donc, pour moi, il y a un petit fond de quelque chose, quand même.
Ok, Jérôme Pinault, ton regard?
Non, j'espère de tout mon cœur qu'il n'y ait pas une trace de cela. C'est surtout ça qu'il faut se dire. J'espère que non, et je me dis que, comme vous, il y a forcément une petite trace de ça. Il y a forcément une petite trace de l'étendard de cette cause qui est très très importante. C'est un garçon qui est décrié, qui insultait. Alors, il leur rend bien parfois, mais le retour est moche et vilain et condamnable. Il est là le problème. Et il porte aussi à lui tout seul cette image-là. Et en face, il y avait quelqu'un un peu plus lisse à mettre. Et je pense que ça a peut-être joué dans cette élection-là. Après, pour moi, il n'y a pas scandale que Rodri soit ballon d'or non plus. Donc, je pense qu'on en a fait beaucoup. Oui. Par contre, où je rejoins Cyril, c'est une formidable pub pour le ballon d'or que de voir le Real qui dit c'est qu'un lot, une récompense individuelle, réagir ainsi.
Et forcément, tous les résultats pays par pays vont être scrutés. Il y a notamment le journaliste du Salvador qui représentait le Salvador, qui a déclaré qu'il n'a même pas mis Vinicius dans son top 10. Et pour lui, sa raison, c'est qu'il n'est pas du tout fair play, donc il n'a pas voulu le mettre dans son top 10. Alors,
il a plus payé ça que le reste, je pense aussi. Ouais.
C'est un argument.
10h57, on se retrouve dans quelques instants, on va vous parler de la Ligue 1. Est-ce que le manque de visibilité de notre championnat peut-il le tuer? Et à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.